Voilà Ankar recroquevillé dans un coin de la bicoque, d'où il maudissait non pas tant la fixité du paysage, ni le flot continuel d'obscénité que toute chose exhalait, mais sa propre glissade, de plus en plus profonde, comme dans un étang de glu. Le temps aussi. Le temps ponctué par le jour et la nuit semblait s'être arrêté à l'heure d'un tintamarre assourdissant. La nuit l'enveloppait violemment. Elle le couvrait de contusions chaque fois que son regard se posait et se demandait jusqu'où. Tout lui pesait. Le silence autant que le bruit. Les visages se réduisaient aux grimaces des bouches faisant des projets, racontant un rêve de miel de l'autre côté des épines, suggérant, en dépit de tout, que l'homme n'était pas cette chose par terre reniflée par les hyènes. Ces bouches. Qui espérait-elle convaincre? En tout cas, pas Anka, enferré qu'il était dans sa nuit à perte de jour, bercé d'aucun mirage. Et le vide s'enflait d'un cortège d'instants tissant doucement une longue saison, si sèche qu'Anka sentait la soif le consumer. N'ayant pas comme quota un fils unique auquel s'agripper, il glissait, sans se débattre. Père pouvait toujours parler. Il pouvait aller le chercher là où il croyait le trouver. Anka se contentait de glisser. Quota le frappait, le menaçait, le suppliait. Pourquoi Anka ne voulait-il plus aller à l'école? À 15 ans, tout était encore possible. Est-ce qu'il avait pensé à ce père qui n'avait que lui? Comme il serait fier si jamais le fils unique se voulait le bâton qui soutient un vieillard. Était-ce trop lui demander d'être infirmier? Alors pourquoi pas maître d'école que les gens d'ici salueront bien bas? Et policier? Ça ne lui disait pas de porter un bel uniforme? Au vu de tout ce respect, Kota se demandait comment le fils né de sa semence pouvait encore faire preuve de mauvaise volonté et passer des journées emmurées dans le silence.
Va au moins jusqu'au certificat d'études. Après, on verra bien.
Pour Anka, c'était déjà tout vu. Il ne bougerait pas le petit doigt. Certainement pas pour la contrée que son père entrevoyait, alors qu'ils étaient là tous les deux, emmurés par le présent à patauger dans cette mare puante entre marécages et collines. À un autre ce compte, pas à lui, qui s'était offert de pleines brassées d'illusions, jusqu'à ignorer l'évidence qui découlait d'une chose aussi simple que le climat chaud et humide de Petite Venise. Il ne voyait plus à quelle source puiser le murmure sans faille qui dirait que son père n'était pas cet homme incapable d'accomplir même l'exploit que pouvait encore se permettre le dernier des bougres à Petite Venise. Qu'il n'était pas cette chose par terre que même les hommes de son espèce moquaient parce qu'il préparait lui-même ses repas, allait au marigot laver son linge, dormait seul dans le règne d'un néant que seul pouvait combler la race des mers. Kota le frappait, le menaçait, le suppliait. Anka secouait obstinément la tête. Il ne le suivra pas là où il voulait le mener. Il ne savait plus prétendre. Au bord de ce précipice, Anka était pareil à la proie fascinée par l'aspic. Là, sa mère se dressait, immobile au milieu de toutes les femmes dont les pieds scandaient la terre sous un ruissellement de plumes et de perles. Son œil grave décochait un reproche à l'enfant venu tout exprès de Petite Venise interrompre sa danse d'allégresse. « Danse, Nindia, danse! Ton fils veut te voir danser. Il dit que tu ne saurais le faire. » Qu'est-ce qu'elle croyait, cette mère faite chienne? Que les lacs pouvaient suffire à la sortir de là? 13 enfants, c'était le maximum qu'elle pouvait se permettre là-bas, vu son âge. Pourvu que ses enfants ne soient pas du même sexe. Rien que des garçons, passe encore, mais un ventre de femme qui ne conçoit pas autre chose que des filles, si ce n'était pas une calamité, alors comment le nommer? Nindia pouvait-elle lui dire? Et admettons que ce ventre réussisse à déjouer les plans du mauvais œil, qui serait forcément cause qu'il n'alterne pas le produit de sa récolte. Nindia ne serait pas quitte pour autant, à cause de toutes les autres malédictions qui la poursuivaient depuis le jour de sa naissance, et même avant. Pour commencer, n'était-elle pas de l'argile dont on fait les chiennes? Il n'y avait rien à faire. Si ce n'était déjà fait, les lacs finiront bien un jour par la noyer. Elle crèvera là-bas, et ce serait tout juste ne pas crever ici. Anka voyait Nindia en cette nuit. La mère lui fredonnait le chant qui mène au miel de l'autre côté des épines, et ce chant lui déchirait le tympan. Tout en lui se mettait à hurler. Il voulait qu'on le laisse là où il était, si ce n'était en paix, du moins dans la certitude de l'étang sans fond qui l'aspirait par à-coups. Il ne se débattait pas, à quoi bon? Il savait d'avance qu'il n'aurait jamais le dernier mot face à cette force qui l'agrippait. Il savait que tout mouvement serait celui embarrassé d'un papillon de nuit se cognant contre le verre d'une lanterne. Il haïssait les papillons de nuit. Depuis que ces créatures imbéciles, faites pour s'abîmer quoi qu'elles fassent, s'étaient mises à incarner aux yeux d'Anka toutes les prétentions du monde, il les haïssait. Jusqu'à les attraper systématiquement, afin de leur arracher une à une leurs ailes et leurs antennes, avant de les écrabouiller rageusement comme s'il s'agissait d'ennemis héréditaires. Il avait beau se raisonner chaque fois, c'était plus fort que lui. Il ne pouvait réprimer l'envie de mettre un terme à leurs vains mouvements. Il fallait qu'il précipite ce qui, à ses yeux, devait de toute façon finir par arriver. La gifle de Kota partait. Une de plus qui brûlait la joue d'Anka. Mais cette fois, Anka ne savait plus si le visage ravagé de tic de son père suppliait ou menaçait. Père voulait savoir si Anka avait effectivement tenu les propos qu'on lui prêtait et qui leur valaient d'être assiégés par toute une famille venue se venger.
« As-tu, oui ou non, prononcé ces paroles dignes du mauvais sang de ninja dans tes veines ?»«
Pourquoi chercher ? Bien sûr qu'il les avait prononcées. Ce n'était pas parce qu'il se taisait qu'on devrait croire qu'il niait. Mais quoi ? Il n'avait fait que dire la vérité à ce simplet qui se faisait appeler Ringo l'Américain depuis qu'il avait découvert, de l'autre côté des collines, la maison de la technicouleur, comme il disait. Il se croyait aux USA. » Ringo. Il mâchait tout le temps du chewing-gum, prenait des airs de fierté pas possible dans son chapeau, sa chemise, son pantalon et ses chaussures complètement cow-boy. Il fallait bien que quelqu'un lui dise qu'il habitait Petite Venise et nulle part ailleurs. Oui, autant valait le lui dire tout de suite, avant que les choses ne se chargent de la besogne. Approche, Ringo. Viens prendre la main fraternelle d'Anka qui te dit qu'il ne sait pas à quoi ressemble l'Amérique, mais peut cependant affirmer que Petite Venise ne ressemble qu'à Petite Venise. » Pour toute réponse, Ringo eut un éclat de rire.
« Dieu merci ! Heureusement que l'Amérique ne ressemble pas à ici !»
pensait-il. Comment le convaincre ? Comment réussir à lui filer la colique qui le ferait sortir dardard de la technicouleur à coup de différence de climat et de position par rapport aux deux pôles ? Anka le fixa droit dans les yeux. Il fallait à tout prix que Ringo comprenne. Ce n'était pas le père d'un Américain qui crèverait de la manière dont avait crevé le sien, rabougri, rongé par la lèpre. Même qu'il fût cloué vite fait entre ses quatre planches, sans même vérifier s'il avait bien rendu son dernier souffle. Ringo fronça soudain les sourcils. Il essayait sûrement de se souvenir des paroles et des gestes qui viendraient à un Américain technicouleur en pareille circonstance. Rien ne venait. Enfin, rien de bien convaincant. De toute évidence, la technicouleur n'avait pas prévu la confrontation de ses yeux avec ceux d'Anka dans le décor unique de Petite Venise.
Ce n'est pas vrai !»
arriva-t-il cependant à bégayer. Les poings serrés, il s'avança plein de menaces vers Anka. Il exigeait que ce dernier lui rende l'Amérique, qu'il lui rende l'instant d'avant cette sueur qui perlait sur son front. « Regarde bien, Ringo, et dis-moi si je mens !» fit seulement Anka, étonné lui-même par l'intransigeance de sa voix qu'il savait porter par la générosité. Il vit Ringo s'écrouler, secoué de convulsions violentes. Une bave épaisse se mit à jaillir de sa bouche, puis se teinta de rouge. Ringo se mordait la langue sous le regard émerveillé d'Anka. Saleté d'enfant venu le premier du ventre de la chienne. Anka glissait, de plus en plus profond. Jusqu'au plaisir jaillissant d'une douleur haleine, jusqu'au chatoiement des abcès et de la gale outrageant sa chair devenue nourriture du ver de Cayor. Il pourrissait vivant. Il avait froid. Il faisait si chaud dehors et y claquait des dents. Sûrement la certitude du fond de l'étang d'un moment à l'autre. C'était elle qui le faisait trembler. C'était elle qui mettait ce désordre dans le mouvement de ses bras qui battaient l'air. Le mouvement de son corps qui se tordait avant de s'affaler dans cette nuit étale, comme une mère de fièvre.